question, ce qui nous ramène à l'âme humaine. Puis-je maintenant poser quelques autres questions à ce propos ? Réponse, vas-y. Question, d'accord, combien y a-t-il d'âmes ? Réponse, une seule. Question, oui, au sens large, mais combien y a-t-il d'individualisation de celle qui est tout ? Réponse, dis donc, j'adore ce mot, j'aime la façon dont tu l'as utilisé. L'unique énergie qui est toute énergie s'individualise en un grand nombre de petites parties. J'aime ça. Question, je suis heureux. Alors, combien d'individualisations as-tu créé ? Combien d'âmes y a-t-il ? Réponse, je ne peux répondre à cette question en termes compréhensibles pour toi. Question, mets-moi à l'épreuve. Est-ce un nombre constant, un nombre changeant, un nombre infini ? As-tu créé de nouvelles âmes depuis le contingent originel ? Réponse, oui, c'est un nombre constant. Oui, c'est un nombre changeant. Oui, c'est un nombre infini. Oui, j'ai créé de nouvelles âmes. Et non, je n'en ai pas créé. Question, je ne comprends pas. Réponse, je sais. Question, alors aide-moi. Réponse, as-tu vraiment dit ça ? Question, dis quoi ? Réponse, alors aide-moi, mon Dieu ? Question, ah, c'est brillant. D'accord, je vais comprendre ça. Même si c'est la dernière chose que je fais, alors aide-moi, mon Dieu. Réponse, je vais acquiescer à ta requête. Comme tu es déterminé, je vais t'aider. Mais je tiens à t'aviser qu'il est difficile de saisir ou de comprendre l'infini d'une perspective qui est finie. Nous allons néanmoins nous y attaquer. Question, super. Réponse, oui, super. Eh bien, commençons par remarquer que tes questions laissent entendre qu'il existe une réalité appelée le temps. En fait, une telle vérité n'existe pas. Il n'y a qu'un seul instant. Et c'est l'éternel instant du « maintenant ». Toutes les choses qui sont jamais arrivées arrivent maintenant et arriveront jamais, se produisent dans cet instant. Rien n'est arrivé avant, car il n'y a pas d'avant. Rien n'arrivera après, car il n'y a pas d'après. C'est toujours et seulement maintenant. Dans le maintenant des choses, je suis en changement constant. Par conséquent, le nombre de façons par lesquelles j'individualise, j'aime ton mot, est à la fois toujours différent et toujours le même. Étant donné qu'il n'y a que maintenant, le nombre d'âmes est toujours constant. Mais étant donné que tu as pensé à maintenant sous l'angle de maintenant et avant, il est toujours changeant. Nous avons touché à ce sujet plus tôt en traitant de la réincarnation, des formes de vie inférieures et du retour des âmes. Puisque je suis toujours changeant, le nombre d'âmes est infini. Mais de n'importe quel point dans le temps, il semble être fini. Et oui, il y a de nouvelles âmes au sens où elles se sont permis, ayant atteint l'ultime conscience et s'étant unifiées avec l'ultime réalité, de tout oublier volontairement et de recommencer. En fait, elles ont décidé de passer à un nouveau point de la roue cosmique et certaines ont choisi de redevenir de jeunes âmes. Mais toutes les âmes font partie du contingent originel, puisque toutes sont en voie d'être créées, ont été créés, seront créés dans l'unique instant du maintenant. En somme, le nombre est infini et fini, changeant et inchangé, selon le point de vue. À cause de cette caractéristique de l'ultime réalité, on m'appelle souvent celui qui bouge sans bouger. Je suis ce qui est toujours en mouvement et n'a jamais bougé, et toujours changeant et n'a jamais changé. Question. D'accord, je saisis. Rien n'est absolu pour toi. Réponse. Sauf que tout est absolu. Question, à moins que non. Réponse, exactement, précisément, tu saisis, bravo. Question, eh bien en vérité, je crois que j'ai toujours compris ces choses. Réponse, oui. Question, sauf lorsque je ne les comprenais pas. Réponse, c'est vrai. Question, à moins que non. Réponse, exactement. Question, tadam, alors tu es Abbott et je suis Costello, et tout cela n'est qu'un spectacle de vaudeville. Réponse, sauf lorsque ce ne l'est pas. Il y a des moments et des événements qu'il faut prendre très au sérieux. Question, à moins que non. Réponse, à moins que non. Question, alors, pour revenir une fois de plus au sujet des âmes. Réponse, quel beau titre pour un livre, le sujet des âmes. Question, nous allons peut-être l'écrire. Réponse, tu plaisantes, nous l'avons déjà fait. Question, à moins que non. Réponse, c'est vrai. Question, à moins que non. Réponse, on ne sait jamais. Question, sauf quand on sait. Réponse, tu vois, tu piges. Tu te rappelles maintenant comment c'est vraiment et tu t'en amuses. À présent, tu te sens plus léger, ton visage s'illumine. C'est ce que veut dire l'illumination. Question, c'est cool. Réponse, très cool, très hot. Question, ouais. C'est ce qu'on appelle vivre à l'intérieur de la contradiction. Tu en as souvent parlé. Bon, pour en revenir aux âmes, quelle est la différence entre une vieille âme et une âme jeune? Réponse, un corps d'énergie, c'est-à-dire une part de moi, peut se concevoir jeune ou vieux selon ce qu'il choisit après avoir atteint l'ultime conscience. Lorsqu'elle retourne à la roue cosmique, certaines âmes choisissent d'être vieilles et d'autres d'être jeunes. En effet, si l'expérience appelée jeune n'existait pas, aucune ne pourrait faire l'expérience appelée vieille. Certaines âmes se sont donc portées volontaires pour être appelées jeunes et certaines pour être appelées vieilles, afin que l'unique âme, qui est en réalité tout ce qui est, puisse se connaître intégralement. De même, certaines âmes ont choisi d'être appelées bonnes et d'autres mauvaises, exactement pour la même raison. Voilà pourquoi aucune âme n'est jamais punie. Car pourquoi l'unique âme voudrait-elle punir une partie d'elle-même d'être une portion du tout? Tout cela est merveilleusement expliqué dans le livre de contes pour enfants « The Little Soul on the Sun » qui le montre assez clairement pour qu'un enfant le comprenne. Question. Tu as une manière si éloquente de dire les choses, une façon si claire d'articuler les concepts affreusement complexes que même un enfant peut les saisir. Réponse. Merci. Question. Alors voici une autre question à propos des âmes. Existe-t-il des âmes sœurs? Réponse. Oui, mais pas au sens où vous l'entendez. Question. Quelle est la différence? Réponse. Vous avez teinté de romantisme l'idée d'âme sœur, de façon qu'elle sous-entende votre autre moitié. En vérité, l'âme humaine, la partie de moi qui individualise, est beaucoup plus grande que vous ne l'avez imaginé. Question. Autrement dit, ce que j'appelle l'âme est plus vaste que je ne le pense. Réponse. Beaucoup plus grande. Ce n'est pas l'air d'une seule pièce, c'est l'air de toute une maison. Et cette maison possède plusieurs pièces. L'âme ne se limite pas à une seule identité, ce n'est pas l'air de la salle à manger. De même, l'âme n'est pas séparée en deux individus appelés âmes sœurs. Ce n'est pas l'air de la combinaison salon-salle à manger, c'est l'air de toute la maison. Et dans mon royaume, il y a plusieurs maisons. Et tandis que le même air circule autour d'eux, dans et à travers chaque maison, l'air des pièces d'une maison peut donner l'impression d'être plus étouffant. On peut donc entrer dans ces pièces et s'exclamer « Comme cela semble étouffant ici !» Alors, tu comprends cela? Il n'y a qu'une seule âme. Mais ce que vous qualifiez d'âme individuelle est immense et plane au-dessus et à travers des centaines de formes physiques ainsi qu'à l'intérieur de celles-ci. Question. En même temps? Réponse. Le temps n'existe pas. Je ne peux répondre qu'en disant oui et non. Certaines des formes physiques enveloppées par ton âme vivent maintenant, selon ta compréhension. D'autres se sont individualisées dans des formes qui sont maintenant ce que vous appelez mortes. Et certaines autres encore ont développé des formes qui vivent dans ce que vous désignez le futur. Tout cela arrive maintenant, bien entendu, et pourtant, votre invention appelée le temps sert d'outil et vous permet un plus grand sentiment de l'expérience réalisée. Question. Alors ces centaines de corps physiques que mon âme a enveloppés, tu as employé un mot intéressant, sont toutes mes âmes sœurs? Réponse. C'est plus proche de l'exactitude que votre façon d'utiliser le terme, oui. Question. Et certaines de mes âmes sœurs ont déjà vécu? Réponse. Telle que tu le décrirais, oui. Question. Ouh, minute, je pense que j'ai pigé quelque chose. Ces parties de moi qui ont vécu auparavant, sont-elles ce que je décrirais à présent comme mes vies antérieures? Réponse. C'est bien pensé, tu piges, oui. Certaines d'entre elles sont vraiment les autres vies que tu as vécues avant, mais certaines ne le sont pas. Et d'autres parties de ton âme enveloppent à présent des corps qui seront vivants dans ce que tu appelles ton avenir. Et d'autres encore sont incarnés sous différentes formes vivants à présent sur votre planète. Lorsque tu rencontres l'une d'elles, tu peux immédiatement ressentir un sentiment d'affinité. Parfois, tu peux même dire « Nous devons avoir passé une vie antérieure ensemble. » Et tu auras raison. Vous aurez passé une vie antérieure ensemble, soit sous la même forme physique, soit sous deux formes dans le même continuum espace-temps. Question. C'est fabuleux. Cela explique tout. Réponse. Oui, c'est vrai. Question. Sauf une chose. Réponse. Laquelle? Question. Quand je sais que j'ai passé une vie antérieure avec quelqu'un, je le sais, Je le sens dans ma chair. Et pourtant, quand je le lui mentionne, cette personne n'en a pas du tout l'impression. Que faut-il comprendre ici ? Réponse : tu confonds tout simplement le passé avec l'avenir. Question : hein ? Réponse : tu as vraiment traversé une autre vie avec elle. Seulement, il ne s'agit pas d'une vie antérieure. Question : c'est une vie future ? Réponse : précisément. Tout arrive dans l'éternel instant de maintenant, et tu es conscient de ce qui, en un sens, n'est pas encore survenu. Question : alors pourquoi ne se rappelle-t-elle pas l'avenir aussi ? Réponse : ce sont des vibrations très subtiles, et certains d'entre vous y sont plus sensibles que d'autres. Cela varie aussi selon les personnes. Tu peux être plus sensible à ton expérience passée ou future avec une personne plutôt qu'avec une autre. Cela signifie habituellement que tu as passé cette autre période en tant que partie de ton âme immense enveloppant le même corps, tandis que lorsque subsiste encore cette sensation de, entre guillemets, s'être déjà rencontré, sans qu'elle soit aussi forte, cela peut vouloir dire que vous avez partagé la même période ensemble, mais non le même corps. Vous étiez ou serez peut-être marié et femme, frère et sœur, parent et ami, amant et bien-aimé. Ce sont des liens puissants, et il est naturel que vous les sentiez lorsque vous vous rencontrez à nouveau, pour la première fois, dans cette vie. Question : si ce que tu affirmes est juste, cela expliquerait un phénomène que je n'ai jamais pu éclaircir, celui d'après lequel plus d'une personne dans cette vie prétend se souvenir d'avoir été Jeanne d'Arc ou Mozart, ou une autre personne célèbre appartenant au passé. J'ai toujours cru que c'était là un argument en faveur de ceux qui allèguent que la réincarnation constitue une fausse doctrine, car comment plus d'une même personne pourrait-elle prétendre avoir été la même personne ? Mais maintenant, je vois de quelle façon c'est possible. En fait, plusieurs des êtres sensibles qui sont maintenant enveloppés par une seule âme, ce R-appel, ce rappel, retrouvent l'appel de la partie de leur âme simple qui était, qui est maintenant Jeanne d'Arc ou autre. Dieu du ciel, ça fait éclater les limites et ça rend toutes les choses possibles. À l'avenir, dès que je me surprendrai à dire que c'est impossible, je saurai que tout ce que je fais, c'est de démontrer qu'il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas. Réponse : voilà une bonne chose à se rappeler, une très bonne chose à se rappeler. Question : et si nous pouvons avoir plus d'une âme sœur ? Cela expliquerait comment il nous est possible de faire l'expérience de ces intenses sentiments d'âme sœur avec plus d'une personne par vie, et même avec plus d'une personne à la fois. Réponse : en effet. Question : alors, il est vraiment possible d'aimer plus d'une personne à la fois ? Réponse : bien entendu. Question : non, non. Je veux dire, avec le genre d'amour intense et personnel que nous réservons habituellement à une seule personne, ou du moins à une personne à la fois. Réponse : pourquoi voudrais-tu réserver l'amour ? Pourquoi voudrais-tu le garder en réserve ? Question : parce que ce n'est pas bien d'aimer plus d'une personne ainsi, c'est une trahison. Réponse : qui t'a appris ça ? Question : tout le monde ? Tout le monde me répète ça. Mes parents m'ont dit ça. Ma religion défend le même principe. Ma société me dit ça. Tout le monde s'entend là-dessus. Réponse : ce sont certains des péchés du père qui sont transmis au fils. Ta propre expérience ne t'enseigne qu'une chose : qu'aimer pleinement chaque personne est ce que tu peux faire de plus joyeux. Mais tes parents, tes maîtres, tes prêtres prêchent autre chose, que tu ne peux aimer ainsi qu'une personne à la fois. Et nous ne parlons pas seulement de sexe. Si tu estimes qu'une personne est aussi spéciale qu'une autre, d'une façon ou d'une autre, on te fait souvent sentir que tu as trahi cette autre. Question : c'est ça, exactement. C'est la perception que les gens en ont. Réponse : ainsi, tu n'exprimes pas d'amour véritable. C'est une variété contrefaite. Question : dans quelle mesure l'amour véritable permettra-t-il de s'exprimer dans le cadre de l'expérience humaine ? Quelles limites allons-nous imposer ? En fait, certains diraient : devons-nous imposer à cette expression ? Si toutes les énergies sociales et sexuelles étaient relâchées, quel serait le résultat ? La liberté sociale et sexuelle, illimitée, est-elle l'abdication de toute responsabilité ou son expression absolue ? Réponse : toute tentative de restreindre l'expression naturelle de l'amour est un reniement de l'expérience de la liberté, donc un reniement de l'âme même. Car l'âme est la liberté personnifiée. Dieu est liberté, par définition. car Dieu est sans limite et sans restriction d'aucune sorte. L'âme est Dieu en miniature. Par conséquent, l'âme se rebelle chaque fois qu'on lui impose des limites et meurt chaque fois qu'elle accepte des limites extérieures. Dans cet esprit, la naissance elle-même représente une mort et la mort une naissance. Car à la naissance, l'âme se trouve contrainte par les affreuses limites d'un corps et au moment de la mort, elle échappe à nouveau à ses contraintes. Elle fait de même durant le sommeil. Ayant retrouvé la liberté, l'âme vole et se réjouit à nouveau dans l'expression et l'expérience de sa véritable nature. Mais sa vraie nature peut-elle être exprimée et vécue lorsqu'elle est avec le corps? C'est la question que tu poses, et elle mène à la raison même et au but de la vie elle-même. Car si la vie dans le corps n'est rien de plus qu'une prison ou une limite, alors à quoi bon? Et quelle peut être sa fonction, et même sa justification ?